La vision de cet homme étrange, pâle, jeune encore, quoique vieux d'au moins un siècle à présent, tentant de survivre face à cette vague de peur et de détestation, était à la fois repoussante et pathétique. Mais le pouvoir de l'argent et ses bonnes actions publiques finirent par diminuer un peu l'aversion dont il était l'objet, surtout lorsque les disparitions de marins cessèrent. Il devait probablement se montrer plus prudent dans ses expéditions nocturnes, car plus personne ne le vit errer dans les cimetières. Les rumeurs de cris et de livraisons incessantes à la ferme de Pawtuxet diminuèrent en proportion. Sa consommation de bétail et de nourriture restait cependant anormalement élevée, de même que celle d'esclaves. Mais jusqu'aux recherches approfondies de Ward dans les livres de contes de Curwen retrouvés à la bibliothèque Shepley, personne ne fit jamais le rapprochement entre le grand nombre de Noirs importés de Guinée jusqu'en 1766 et le très petit nombre de certificats de vente aux marchands du Grand Pont ou directement aux planteurs de la région de Narragansett. À n'en pas douter, cet abominable personnage était doué d'ingéniosité et de ruse, et il en fit usage, sentant que leur exercice était devenu indispensable. Hélas, les effets de ce raccommodage tardif avec la population ne furent pas à la hauteur de ses espérances. On continuait malgré tout de l'éviter et de s'en méfier, ne serait-ce qu'à cause de son âge apparent, et il comprenait bien que ses affaires auraient à en souffrir tôt ou tard. Ses études et ses expériences, quelles qu'elles aient pu être, nécessitait de gros moyens et il lui était à présent impossible de déménager encore une fois en perdant à coup sûr la fortune et les privilèges qu'il avait acquis. Le sens commun imposait qu'il accommodât ses relations avec les bonnes gens de Providence de façon à ce que sa présence ne provoquât plus ni chuchotement dans les conversations, ni départ précipité aux motifs enfantins, ni cette atmosphère générale de malaise et de tension qui entourait toutes ses apparitions. Ses employés, réduits à présent à la lie que plus personne ne voulait engager, lui donnaient bien du souci, et il ne parvenait à tenir ses capitaines et leurs équipages que par des expédients inavouables, une reconnaissance de dette, une hypothèque, un secret honteux. On rapporte dans plusieurs journaux intimes que c'est évidemment par sorcellerie que Curwen arrivait à les déterrer. Seules des conversations avec les morts pouvaient lui permettre de découvrir tous ces renseignements qu'il menaçait à présent de divulguer. C'est à cette époque que le génie du désespoir lui souffla une dernière idée pour reprendre sa place dans la communauté. Jusqu'alors quasiment ermite, il entreprit de se marier avec une demoiselle dont la position sociale rendrait dorénavant impossible l'ostracisme dont il était l'objet. Peut-être avait-il d'ailleurs d'autres raisons plus profondes, des raisons au-delà de la raison humaine, que seul un historien aurait pu suspecter à la lecture de ses papiers un siècle et demi après sa mort. De cela, rien n'est ni ne sera jamais établi. Naturellement, il était bien conscient de l'horreur qu'il inspirait et de l'accueil qui serait réservé à toute avance amoureuse. Aussi devait-il se trouver une fiancée dont les parents pourraient être influencés par des moyens adéquats. Les candidates n'étaient pas nombreuses étant donné ses exigences en matière de beauté, d'éducation et de position sociale. Le résultat de ses recherches se réduisit finalement à une seule famille, celle d'un de ses plus anciens capitaines, Duty Tillinghast, veuf à la réputation irréprochable, issu d'une des plus anciennes lignées de Providence, dont la fille unique, Elisa, mis à part la fortune, remplissait toutes les conditions posées par Curwen. Le pauvre capitaine Tillinghast était totalement sous la coupe de son armateur, et après une entrevue terrible dans sa maison de Powers End, il finit par consentir à cette union blasphématoire. Elisa Tillinghast avait 18 ans et avait été élevée le mieux possible compte tenu des moyens limités de son père. Elle avait fréquenté l'école Stephen Jackson en face du palais de justice et avait reçu de sa mère l'éducation d'une jeune fille de bonne famille jusqu'à ce que cette dernière soit emportée par la variole en 1757. On peut encore voir une des broderies qu'elle fit à l'âge de 13 ans à la Société historique de Rhode Island. Après la mort de sa mère, elle resta dans la maison avec pour seul domestique une vieille noire. Une dispute très pénible dut avoir lieu avec son père à propos de ce mariage, mais on n'en a trouvé aucune trace. Une chose est cependant établie. Ses fiançailles avec le second officier de chez Crawford furent rompues. Le mariage fut célébré le 17 mars 1763 à l'église Baptiste par le révérend Samuel Windsor, en présence de la bonne société de Providence. La Gazette a relaté brièvement l'événement, mais dans tous les exemplaires qui en existent encore, l'article a été coupé ou déchiré. Ward est malgré tout parvenu à en retrouver une copie intacte dans les archives d'un collectionneur privé. L'article est rédigé ainsi. Ce lundi soir, M. Joseph Curven, marchand en notre bonne ville, a été uni à Mademoiselle Elisa Tillinghast, fille du capitaine Duty Tillinghast, une jeune fille qui, alliant à un grand mérite une parfaite beauté, fait honneur à la noble institution du mariage et en perpétuera la félicité. Plusieurs lettres de la famille Durfey Arnold, découvertes par Charles Ward dans la collection privée de l'honorable Melville F. Peters, montrent que cette union monstrueuse avait en réalité provoqué une vague d'indignation générale. Ceci n'entama pas pour autant le crédit et l'influence de Tillinghast, et Joseph Curven se mit à recevoir des gens qui, autrement, n'auraient jamais consenti à franchir le seuil de sa porte. Mais cette acceptation n'était pas entière et Elisa eut quand même à souffrir des conséquences sociales de son mariage forcé. Quoi qu'il en soit, le mur d'ostracisme était fissuré, et ce d'autant que le jeune marié déployait à l'égard de sa femme des trésors de gentillesse et d'attention qui étonnèrent tout le monde. Il n'y eut plus aucune manifestation bizarre dans la maison d'Olney Court, et bien que Curven s'absenta souvent pour se rendre à la ferme de Pawtuxet Road, dans laquelle sa femme ne fut jamais admise, il semblait enfin être devenu un citoyen comme les autres. Une seule personne lui gardait une haine féroce, le jeune officier de marine dont les fiançailles avaient été brutalement rompues. Ezra Whedon avait juré de se venger, et les projets qu'il nourrissait avec une hargne tenace ne présageaient rien de bon pour celui qu'il tenait pour un usurpateur. Le 17 mai 1765 naquit la fille unique de Joseph Curven, Anne. Elle fut baptisée par le révérend John Graves à l'église épiscopalienne du roi, que les époux fréquentaient depuis leur mariage, sorte de compromis religieux entre leurs églises respectives, congrégationnelles et baptistes. La mention de cette naissance, de même que celle de leur mariage, ont été supprimées des différents registres officiels où elles étaient censées apparaître. Charles Ward ne les découvrit, avec beaucoup de difficulté, qu'après avoir appris que la veuve de Curven avait changé de nom. Un nom familier qui provoqua chez lui un regain d'intérêt fébrile et qui le fit peut-être basculer dans la folie. En correspondant avec les héritiers du docteur Graves, il apprit que celui-ci avait dû fuir avant la Révolution à cause de ses opinions loyalistes, mais qu'il avait pris la précaution d'emporter une copie des registres de l'église du roi. Il avait exploré cette piste, sachant qu'Anne Tillinghast, son arrière-arrière-grand-mère, était épiscopalienne. Peu après la naissance de sa fille, événement qu'il accueillit avec une exaltation qu'on ne lui connaissait pas, Curven décida de poser pour son portrait. Il avait choisi un peintre d'origine écossaise, Cosmo Alexander, qui résidait à Newport où il avait acquis une petite célébrité après que l'on eût su qu'il avait été jadis le maître de Gilbert Stuart. On racontait que le tableau avait été peint directement sur un panneau de bois de la bibliothèque dans la maison d'Olney Court, mais on ne savait rien de son emplacement exact. À cette époque, Curven paraissait extraordinairement absent et étourdi. Il passait le plus clair de son temps à la ferme de Pawtuxet Road. Il était comme suspendu dans l'imminence de quelque découverte extraordinaire, forcément liée à l'alchimie, car il avait déménagé la presque totalité des ouvrages qui en traitaient de la maison d'Olney Court à la ferme. Son apparent civisme ne s'était pas démenti, et il ne manquait jamais une occasion d'aider des personnalités comme Stephen Hopkins, Joseph Brown et Benjamin West à élever le niveau culturel de la ville pour atteindre celui de Newport, où le mécénat était beaucoup plus développé. En 1763, il avait aidé Damien Jenks à monter sa librairie, dont il était devenu le meilleur client. Il avait également secouru la Gazette de Providence quand elle avait connu quelques difficultés financières. En politique, il soutenait ardemment le gouverneur Hopkins contre Ward, très influent à Newport, éternel rival de Providence. Hopkins avait fait un discours brillant à Hatcher's Hall en 1765 pour réclamer la scission des quartiers nord de Providence en une ville propre, où il avait évidemment une influence prépondérante. Ceci, plus que toute autre action, contribua à atténuer les préjugés que l'on pouvait avoir contre lui. Mais Ezra Whedon, qui continuait de l'espionner sans relâche, brocarda son engagement politique et ses initiatives charitables, qui n'étaient, disait-il à tout vent, qu'une couverture pour des trafics innommables avec les abîmes du Tartare. Le vindicatif jeune homme se lança dès lors dans une enquête systématique de tout ce que Kerven entreprenait. Chaque fois qu'il était au port, il passait des heures à surveiller les entrepôts de l'armateur et s'en approchait silencieusement à la moindre lumière sur une petite embarcation qu'il avait toujours prête. Pour autant que possible, il surveillait très étroitement la ferme de Pawtuxet Road et fut même sauvagement mordu par un des chiens que les Indiens avaient lâché sur lui une nuit.